Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, c'est un ouvrage exceptionnel que l'émission Au fil des pages sur Canal Académie est aujourd'hui consacrée. Exceptionnel par sa beauté, sa qualité, son originalité, mais exceptionnel surtout par son contenu, tant pour les textes que les illustrations. Cet ouvrage porte le titre « D'encre et de lumière, itinéraire secret dans la bibliothèque du Sénat ». C'est en effet... À partir des collections uniques de gravures, d'estampes, de plans, de dessins, de reliures enfouies dans les trésors de la bibliothèque du Sénat, que cet album prestigieux a été réalisé. Pour la première fois, le palais du Luxembourg, où siège le Sénat, dont on a souvent vanté les ors des salons et la beauté des jardins, ouvre à nos yeux émerveillés les secrets de sa bibliothèque, l'une des plus belles bibliothèques de France. La collection du Sénat compte près de 400 000 volumes. Et l'ouvrage d'encre et de lumière que je vous présente aujourd'hui offre aux lecteurs 54 chefs-d'œuvre qui, à leur manière, racontent la vie des Français et l'histoire du livre. En le feuilletant, vous allez voyager entre les velins dorés et les grands maroquins aux armes royales, découvrir ici de petits et mystérieux pamphlets. Et là, une encyclopédie inconnue, 37 volumes en veau marbré. Respirer l'encre violette d'un vieux livre annoté. Ouvrir, enfin, la Sibérie au XVIIe siècle, jamais ouverte. Et reconnaître, parmi tant d'autres, l'original de la signature de Talleyrand. Bref, d'encre et de lumière, itinéraire secret dans la bibliothèque du Sénat, est un livre qui, plus encore que tous les autres livres, invite à la rêverie, à l'émerveillement. Le maître d'œuvre de cet album, de ce chef-d'œuvre, l'historien Frédéric Daguet, a proposé à des sénateurs, mais aussi à des historiens renommés, de rédiger les textes présentant ces 54 chefs-d'œuvre. Et parmi les sénateurs, citons en premier M. Christian Poncelet, actuel président du Sénat, qui signe la préface, en soulignant, et je le cite, que ces chefs-d'œuvre ne sont pas seulement des pièces uniques qui racontent l'histoire, ils sont l'histoire. Ils ont été écrits à l'encre du monde. Fin de citation. Parmi les auteurs de cet ouvrage, trois membres de l'Institut de l'Académie des sciences morales et politiques, Jean Cluzel, qui siégea durant 28 années au Sénat comme sénateur de l'Allier, Henri Amouroux et Jean Tullard, tous deux historiens renommés. Je vous propose de prendre maintenant connaissance des textes rédigés pour l'ouvrage « D'encre et de lumière, itinéraire secret dans la bibliothèque du Sénat » par chacun de ses académiciens. Et si vous le voulez bien, nous respecterons l'ordre alphabétique et nous commencerons donc par la lecture du texte d'Henri Amouroux, « Le Sénat à l'heure allemande ». Je rappelle simplement pour nos auditeurs que, après le départ des sénateurs pour Vichy, le palais du Luxembourg a été occupé par l'état-major de la Luftwaffe, le commandement de l'armée de l'air du Troisième Reich pour le front de l'Ouest. Et l'annexe de la bibliothèque du Sénat fut alors transformée en un abri, qui depuis d'ailleurs a été aménagé en abri atomique. Nous écoutons donc maintenant, lu par Fernand Guillot, le texte d'Henri Amouroux.
Dès leur entrée à Paris le 10 juin 1940, les Allemands perquisitionnèrent, réquisitionnèrent, occupèrent. Même s'ils le visitèrent pour la première fois le 11 juillet, le palais du Luxembourg ne fut pas au nombre de leurs objectifs initiaux. Ils l'abordèrent d'abord par le jardin, où, le 12, puis le 16 août, une de leurs musiques militaires donna un concert, suivi chaque fois, selon la préfecture de police, par 3000 personnes. Le 25 août, il était 14 heures, lorsque Marcel Macquarie, architecte en chef du Sénat, fut appelé dans la cour du palais. Il se trouva en présence du colonel Eccles, architecte en chef des services allemands, qui lui notifia une réquisition personnelle, car des travaux importants devaient être effectués dans le palais prochainement occupé. Macari répliqua que cette réquisition lui semblait superflue, puisque sa fonction consistait à protéger en toutes circonstances les intérêts français, ce qu'il continuerait à faire et ce qu'il fit au cours des 4 années d'occupation avec constance, courage et relative efficacité dans des conditions toujours difficiles. Hermann Göring, ayant pris la décision d'installer au Sénat le quartier général de la Luftwaffe, engagé contre l'Angleterre, quartier général placé initialement sous la direction de son protégé, le maréchal Erhard Milk, puis sous celle d'Hugo Sperl, promu maréchal après juin 1940, les Français devaient évacuer les lieux. Rapidement. Sous la présidence de Maurice Mollard, la commission des travaux publics fut la dernière à se réunir. Mais lorsque le 13 septembre, le questeur Maurice Hamelin se présenta, il trouva les bureaux occupés par des ouvriers affairés à arracher la tapisserie, à remplacer les fils téléphoniques et démonter les tables. Un officier lui fit savoir que toute présence française était désormais interdite. Le palais et ses 1 500 occupants allaient vivre à l'heure allemande. Encore fallait-il, pour les besoins des services chargés de la direction des opérations aériennes, édifier de nombreux bureaux dans les locaux existants, modifier tout le système électrique et téléphonique, vétuste, il est vrai, ce qui n'alla pas sans bricoler, refaire ou rafraîchir les peintures, supprimer les sonneries traditionnelles, augmenter la puissance du chauffage et, pour le confort du maréchal Sperl ainsi que de son état-major, créer 2 salles de bain au rez-de-chaussée de la présidence, installer un monte-plat électrique depuis des cuisines agrandies, édifier une petite terrasse au rez-de-jardin. Agissant sans vandalisme, les Allemands épargnèrent la partie historique du palais. Salle des séances, galerie des bustes, salle des conférences, pourtour et escalier des tribunes. Et s'ils divisèrent la bibliothèque en 3 parties, ce fut par des cloisons légères qui ne touchaient pas au décor, les livres étant protégés par un revêtement contreplaqué de 3,50 m de haut. Cette correction n'empêchait pas les exigences. Seuls utilisateurs du palais, les Allemands n'en réclamèrent pas moins à l'administration du Sénat le règlement des factures de la réparation d'une chaudière ainsi que des suppléments de charbon. Et c'est un devis considérable qui fut présenté pour l'installation d'un conditionnement d'air dans une chambre de la présidence. Macari luttait de son mieux contre des demandes allemandes qui tenaient parfois du caprice. Ainsi, lorsque, refusant d'admettre la nécessité de restreindre la consommation d'eau potable, les occupants exigèrent le fonctionnement des jets d'eau de la fontaine Médicis et du Grand Bassin, devenus piscines d'été à partir de juin 1944, au moins 2 heures par jour. S'il ne pouvait tout empêcher, l'architecte en chef du Sénat put, en certaines circonstances, du moins, gagner du temps. Ce qu'il fit lorsqu'en avril 1944, les occupants du Sénat eurent des vues sur l'immeuble du boulevard Saint-Michel, où, après une longue halte dans un appartement réquisitionné de la rue Guynemer, quelques services du Sénat avaient trouvé place. Mais la guerre changeait de cours. La Luftwaffe triomphante de 1940 était désormais surclassée par les chasseurs et les bombardiers alliés. Pour la préparation du débarquement, les villes françaises occupées, elles l'étaient toutes depuis le 11 novembre 1942, devenant des cibles, comment ne pas craindre que, siège d'un important état-major, le Sénat ne soit au nombre des objectifs prioritaires? Cette menace contribua non seulement à l'évacuation de toutes les archives conservées dans les combles du palais, archives qui pouvaient être un aliment de choix pour l'incendie, mais aussi à la construction d'un imposant abri souterrain sous la partie du jardin du Luxembourg contiguë à la façade est du palais. L'abri n'était pas totalement achevé le 18 août 1944, lorsque le chantier fut abandonné. Quel sens, d'ailleurs, pouvait-il bien avoir alors que les Alliés approchaient de Paris et que ce même 18 août, des troupes de choc des SS et une compagnie de Schutzpolizei était venu remplacer les administratifs de la Luftwaffe. Dans le jardin se trouvaient plusieurs chars français de prise et quelques blindés allemands modernes. Les défenseurs utilisèrent parcimonieusement ces chars. L'un d'eux effectua le 22 août une sortie contre le poste de police proche de la mairie du 5e arrondissement et, pour protéger sa compagnie d'accompagnement, tira quelques rafales sur les immeubles suspects de la rue Soufflot, le 5 notamment. Plus sérieux fut l'engagement qui eut lieu le 25 entre la Moskova, un char de la 2e DB armé d'un canon de 105, et un Panther qui, par la rue de Médicis, avançait en direction de la rue de Vaugirard. Déchenillé par le tir français, le Panther allait être abandonné par son équipage. Le capitaine de Vitas, responsable de ce succès, reçut, après une assez longue attente justifiée par la lenteur de la transmission de l'acte de reddition de von Scholtitz, l'ordre de pénétrer dans le palais, qu'il trouva dans l'état de saleté et de désordre que l'on imagine. État que Macari décrivit dans son long rapport du 6 octobre. La bataille qui avait également eu lieu rue Saint-Jacques entre FFI, soldats de la 2e DB et défenseurs du Luxembourg, avaient laissé des traces sur les murs, où elles sont toujours visibles. Le jardin avait perdu, non du fait des combats, mais des évolutions des chars, 25 arbres d'alignement, 3 dattiers, un grenadier et un oranger, et avant sa capture, la garnison avait pillé le jardin fruitier. Ce n'était pas le plus grave. Certaines parties du jardin avaient été minées. 5 770 kilos d'explosifs se trouvaient dans l'abri. Des munitions abandonnées restaient dans les différents postes de défense établis autour du Sénat et les artificiers français faisaient défaut, comme faisaient défaut les moyens de transport pour évacuer les canons de DCA. Le 22 octobre, enfin, le jardin fut ouvert aux Parisiens. C'était un dimanche. Et à la demande du secrétaire général du Sénat, là où les musiques militaires allemandes avaient joué pendant 4 ans, un concert fut donné par une musique militaire française pour la plus grande joie patriotique des nombreux et fidèles visiteurs du jardin du Luxembourg. Habitant, ajoute le secrétaire général, l'un des quartiers de Paris qui a le plus souffert lors des journées de libération de la capitale.
C'était la lecture du texte que l'historien Henri Amouroux a rédigé pour l'ouvrage « D'encre et de lumière », un superbe ouvrage présentant la bibliothèque du Sénat, son histoire, ses trésors, un ouvrage auquel est consacrée cette émission au fil des pages sur Canal Académie. Après une courte pause musicale, je vous propose de poursuivre la lecture des textes rédigés par les 3 académiciens de l'Académie des sciences morales et politiques pour ce livre « D'encre et de lumière ». Texte de l'ouvrage « D'encre et de lumière, itinéraire secret dans la bibliothèque du Sénat » retient notre attention. C'est celui de Jean Cluzel. Jean Cluzel qui, je le rappelle, a siégé au Sénat durant 28 années comme sénateur de l'Allier. Jean Cluzel a consacré un texte dans ce livre à un surprenant catalogue. Et comme il nous fait le plaisir d'être ici, avec nous, dans le studio de Canal Académie, je vais lui laisser le soin de nous présenter ce recueil sur lequel il a écrit et de lire lui-même le texte dont il est l'auteur. Jean Cluzel, bonjour.
Bonjour.
Quel est ce mystérieux recueil sur lequel on vous a demandé d'écrire ?
Eh bien, ce recueil a pour titre recueil de tous les costumes des ordres religieux et militaires avec un abrégé historique et chronologique. C'est l'un des trésors de la bibliothèque du Sénat.
Vous a-t-on demandé de le choisir ou est-ce qu'il vous a été imposé ?
Oh non, il ne m'a pas été imposé, il m'a été proposé. Et comme c'était un honneur d'écrire pour un livre qui est édité au nom du Sénat, j'ai été tellement heureux que je l'ai pris avec joie, mais il m'a fallu plus de travail que je ne croyais, parce que lorsqu'on dit « recueille tous les costumes », on oublie de dire que c'est depuis le début des temps, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.
Et ça fait combien de volumes alors ?
Eh bien, ça doit faire, je crois, 6 volumes.
Ah oui.
Et l'auteur était du reste soucieux de clarté, puisque le 3 septembre 1777, Charles Barre, Jacques Charles Barre exactement, rendit au dédicataire M. Bignon. Ah, M. Bignon, quel était-il ? Il n'était qu'autre que le bibliothécaire du roi et de surcroît conseiller d'État. Alors, M. Jean-Charles Barre, l'auteur de ce recueil, a remercié son protecteur qui lui avait facilité l'accès à la bibliothèque royale et précisa qu'il n'avait pas fait œuvre de compilation. Si, parce que moi, pour écrire ces quelques dizaines de lignes, ces quelques paragraphes, il m'a fallu vérifier s'il ne s'était pas inspiré d'auteurs précédents. Et je l'ai trouvé. Notamment le père Elliot, un prêtre qui, en 1719, avait écrit déjà un premier recueil. Et M. Jacques Charles Barre s'en est inspiré sans retenue. Alors, il nous dit quand même qu'il a élargi sa recherche à des parties du monde et à des ordres négligés jusque-là. C'est vrai. Il a pratiquement eu des renseignements sur toutes les parties du monde et j'ai pu vérifier dans les notices précédant la présentation de chaque ordre qu'il avait écrit au monde entier pour des recherches historiques ou des recherches de costumes et en même temps de teintes, puisque son recueil n'est pas un recueil en noir et blanc, c'est un recueil en couleur. Alors il faut savoir que durant ces années précédant la Révolution, l'entreprise de ce monsieur Jacques Charles Barre était on ne peut plus officielle. Comme le montre du reste, car c'est une curiosité que j'ai eue, comme le montre du reste, la liste des souscripteurs couvre le roi, la reine, la famille royale, avant d'autres souverains d'Europe et nombre de grands seigneurs. Alors comment parut cet ouvrage ? Eh bien, il est paru par fascicule, publié de 1776 à 1789. Voyez-vous, ce n'est pas inutile de préciser que dans sa première forme, parce que j'y reviendrai tout à l'heure, il y a une histoire, dans sa première forme, il s'est arrêté avec la Révolution. Il y a eu 338 livraisons, 6 volumes, 719 figures d'Europe, de Syrie, de Palestine, d'Éthiopie, d'Inde, les ordres monastiques des deux sexes, les ordres de chevalerie, les ordres miliciens et les ordres militaires des anciens, des Turcs, des Malabars et autres Indiens, au total 56 livraisons supplémentaires. Eh oui, parce que aux livraisons dont je vous ai parlé tout à l'heure, 338 livraisons exactement, il s'en est ajouté 56, parce qu'il a continué jusqu'en 1793. Mais, c'est là où il faut sourire. Mais dans des conditions qui étaient tout autres et qui valent d'être comptées. Alors si vous me le permettez, je vais vous le rappeler brièvement. Notre graveur, Jacques Charles Barre, n'entendait surtout pas lâcher un filon qui lui rapportait tout à la fois argent et considération. Mais nous sommes à notre époque.
On le comprend.
Nous sommes à notre époque, n'est-ce pas ? Les gens qui paraissent à la télévision et les gens qui parlent à la radio, je parle des grandes radios, pas forcément Canal Académie, eh bien, ces gens-là veulent aujourd'hui de l'argent, de la notoriété. Jacques Charles Barre également. Alors, il a changé son nom. Il ne s'est plus appelé Jacques Charles Barre, qu'il était. Le voici qui signe maintenant pour ses livraisons entre 1789 et 1793, Giacobbo Carlo Rabelli. Giacobbo Carlo Rabelli,
ça sonne
c'est
mieux.
Un anagramme italianisé dont la transparence étonne. Rabelli, Charles Barre. Ce masque pouvait-il tromper ? Et tromper qui ? Avec l'approche de la Révolution, on a noté du reste une évolution dans ses livraisons. Certes, et j'en atteste, le souci d'une documentation inattaquable est toujours là. Ce que l'auteur ne manque du reste pas de souligner et de rappeler. Lourdement. Cependant, peu à peu, comme insensiblement, le dessin se fait de plus en plus ironique. Les commentaires eux-mêmes, franchement critiques, c'est pas tout à fait le canard enchaîné, mais ça s'en rapproche. Les figures coloriées, purement didactiques des premiers fascicules, glissent nettement vers la moquerie. Que penser, par exemple, de la pimpante fraîcheur de telle nonnette, de l'attitude prime-sautière d'une seule noble de Venise, du décolleté de ces dames, ou de la transparence de leur voile? Et ce n'était pas le voile islamique, c'était un autre voile. Mais Barre ne cède jamais à la caricature, quoique de plus en plus ambigu, il s'est conservé à son dessin, sa joliesse, et cette facture gracieuse et délicate qui en fait tout le charme et nous enchante. Alors je reviens sur 1785, je reviens sur les fakirs du volume 2, qui suggérait que la foi pousse aux extrêmes tout en relativisant les croyances. J'insiste, la foi pousse aux extrêmes tout en relativisant les croyances. En revanche, donc nous passons de 1785 à 1792, en revanche, ce qui figure à la fin de l'ouvrage, donc 1792, au troisième volume, pourrait avoir pour fonction de dénoncer les mortifications trop rigoureuses que certaines religions imposent à leurs adeptes. Si l'auteur n'a plus le même regard sur la religion, c'est parce qu'il a pris celui de ses nouveaux lecteurs.
Oui, et là encore, c'est la révolution,
on se retrouve aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui, donc je suis persuadé que, sans qu'il y ait les sondages, il a su que les goûts avaient évolué et que les critiques devaient être plus incisives. Alors, ces livres d'images ont donc leur part de mystère, et c'est la raison pour laquelle je me suis beaucoup intéressé à ce travail. D'abord, qui était ce Barre ? Eh bien, on ne sait pas. D'où tenait-il ses modèles ? Je réponds de ses prédécesseurs, mais aussi, et là, encore une fois, je m'en porte garant, mais aussi de ses nombreux correspondants qu'il ne manque pas de citer. Preuve à l'appui, puisque chaque série de dessins, chaque série de croquis est précédée d'une explication et des sources. Alors, tel qu'il est, l'ouvrage est de son temps. Il respire l'esprit et le ton de ce siècle finissant. Mais Barre paraît beaucoup plus proche de Buffon que des encyclopédistes. Pas dupe, il savait que ses gravures auraient plus de chances de passer à la postérité que ses notices explicatives, je dois dire, à l'exactitude souvent douteuse. Alors, ne le chicanons pas sur la qualité de ses classifications. C'est plus un artiste en définitive qu'un homme de science. Il confond donc, allègrement, et là je suis un peu critique en le disant, il confond donc ordre militaire et ordre de chevalerie. Eh bien, ce n'est pas pareil. Et que viennent faire ici les Amazones, ou encore les frères Joyeux, dont on ne sait pas qu'ils aient, au plaisir, préféré la dévotion. Mais une qualité de cet artiste lui vaut néanmoins notre admiration. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est un psychologue. Il sait qu'un moine, il sait qu'une nonne, prononçant leurs vœux, s'engage à respecter les règles de leur ordre. Mais il n'oublie pas, parce qu'il est un grand psychologue, même si à l'époque on ne parlait pas encore des psychanalystes, il n'oublie pas que la chair est faible et le monde bien attirant. Cette ambiguïté toute humaine, Barre, Jacques-Charles Barre, ou Borelli si vous préférez, la suggère en donnant parfois à ses figures une mine plus ou moins vaniteuse, une attitude quelque peu provocante. Eh bien, chères auditrices, chers auditeurs. C'est pourquoi ce Jacques Charles Barre nous plaît, ce graveur philosophe, lorsqu'on l'imagine dans son petit atelier, rue du Roi Doré, penché sur ses planches, coloriant ses dessins l'un après l'autre. Chaque livre, livré, chaque livraison, était colorié à la main. Donc au prix d'une longue patience. Et je conclurai en disant que c'est pour notre plaisir que son œuvre a traversé les temps et il faut remercier le Sénat, son président, les sénateurs, leurs collaboratrices et leurs collaborateurs de l'avoir conservé précieusement dans leur bibliothèque, pour les amateurs certes, mais aussi, et c'est à eux que je m'adresse maintenant pour terminer, mais aussi pour les plus exigeants des bibliophiles.
Vous écoutez Canal Académie.
Chaque semaine, l'Académie des sciences morales et politiques ouvre ses portes à un conférencier. Cette année, l'Académie répond à la question « Faut-il faire confiance aux historiens ?» Quelques exemples de communication, « Les historiens et la légende noire du Second Empire », Sacha Guitry et les historiens, « Peut-on faire confiance aux historiens de la médecine ?» Les archives nationales. Canal Académie vous propose de découvrir les grands sujets traités en séance. Plusieurs fois par jour, retrouvez l'intégralité des séances de l'Académie des sciences morales et politiques en écoutant Canal Académie.
Retour dans Au fil des pages, notre émission littéraire sur Canal Académie. Après Jean Cluzel, un troisième auteur de l'Académie des sciences morales et politiques est présent dans cet ouvrage dont nous parlons, c'est-à-dire D'encre et de lumière, itinéraire secret dans la bibliothèque du Sénat. Ce troisième auteur, c'est M. Jean Tullard. Nul ne sera surpris d'apprendre que son texte est consacré à l'une des grandes figures de l'époque napoléonienne, le maréchal Ney. Alors simplement rappelons que la Chambre des Pairs, qui avait succédé au Sénat conservateur, et a siégé pour la première fois en haute cour de justice en 1815, juste après la... je mets le mot entre guillemets, trahison du maréchal Ney, condamné pour avoir rejoint Napoléon au lieu de le ramener dans une cage de fer. C'était les instructions que le maréchal avait reçues. Il s'est rallié à l'empereur au lieu de le ramener comme condamné. Écoutons la lecture par Fernand Guyot du texte de Jean Tullard.
L'épuration qui suivit la restauration du roi en 1814 ne fut pas sanglante. Napoléon, en abdiquant, avait libéré les fonctionnaires et les officiers de leur serment de fidélité à l'Empire. Seuls furent écartés les conventionnels régicides. Il n'en fut pas de même en 1815, lors de la seconde restauration. Tous ceux qui avaient rejoint Napoléon de retour de l'île d'Elbe furent considérés comme ayant trahi Louis XVIII, qu'ils s'étaient engagés par serment à défendre. Un châtiment exemplaire s'imposait. Le cas le plus éclatant était celui du maréchal Ney, le brave des braves, dont le roi avait fait un pair de France et un gouverneur de la 6e division militaire à Besançon. C'est sur lui que comptait Louis XVIII pour endiguer les défections dans l'armée et arrêter l'empereur. Reçu aux Tuileries le 7 mars, Ney, emporté par sa fougue, promis de ramener Napoléon dans une cage en fer. « Je ne lui en demande pas tant », aurait murmuré le roi. À Auxerre, le 14 mars, le maréchal trahissait sa promesse en se ralliant à Napoléon. « Le misérable, il n'y a donc plus d'honneur », s'exclama le roi à la nouvelle de cette défection. À partir de ce moment, le comportement de Ney devint aberrant. Tous les témoins notent son excitation lorsqu'il retrouva l'empereur le 18 mars. Ne l'avait-il pas un an plus tôt poussé à l'abdication ? Ney obéit à l'ordre de Napoléon de faire arrêter les généraux royalistes Lecourbe et Bourmont. Même si cet ordre ne fut pas suivi d'effet, il se transforma en pièce à charge lors du procès du maréchal. Après Waterloo, où il avait vainement cherché la mort et précipité la défaite des Français par une charge de cavalerie prématurée, Ney songea à s'exiler. Joseph Fouché lui fit remettre deux passeports, mais, démoralisé et victime d'une imprudence, le maréchal fut arrêté le 3 août 1815 à Aurillac. Transféré à la conciergerie, il se vit inculpé de haute trahison. Il devait être traduit devant un conseil de guerre que présidait le maréchal Jourdan. Les maréchaux qui composaient ce conseil firent connaître leur réticence à juger l'un des leurs. De son côté, Ney, défendu par Pierre-Antoine Berryer et Dupin aîné, rejetait la compétence du conseil de guerre. Celui-ci s'étant déclaré incompétent, l'ordonnance royale du 11 novembre 1815 renvoya le procès devant la Chambre des pairs siégeant en haute cour de justice. Ney fut alors conduit, le 21 novembre, de sa cellule de la conciergerie dans une pièce située sous les combles du palais du Luxembourg qui retrouvait provisoirement le rôle de prison qu'il avait déjà assuré sous la Terreur. La vie du palais s'en trouva affectée. Les archives du Sénat possèdent de nombreuses ordonnances prises lors du procès, qui fut public, et occasionna de nombreuses dépenses. C'est toute la routine quotidienne et matérielle qui ressuscite dans ces documents. Gratifications supplémentaires pour le personnel et principalement les huissiers, frais d'habillement des officiers de la garde royale employés pour la surveillance du maréchal, uniforme bleu fourni par Hoffmann Renard, marchand tailleur rue Vivienne, travaux de maçonnerie et de menuiserie, impressions diverses, dépenses d'éclairage et de nourriture. Le soir, la maréchale venait dîner avec son mari. Pièce maîtresse du dossier conservé au Sénat, l'arrêt de la Chambre des pairs reconnaissant Ney coupable du crime de haute trahison et d'attentat à la sûreté de l'État. 159 voix l'approuvèrent, dont celles des maréchaux Kellermann, Marmont, Pérignon, Serrurier et de Chateaubriand. Le duc de Breuil parla contre. La sentence fut lue le 6 décembre 1815 en l'absence de l'accusé et de ses défenseurs à 11h30 du soir. Le 7 au matin, le maréchal était exécuté dans l'allée menant à l'Observatoire de Paris, probablement à l'emplacement où s'élève aujourd'hui sa statue. Son exécution, ressentie comme une faute de la monarchie et une tache sur la réputation de la Chambre des pairs, frappa les imaginations. Une légende naquit selon laquelle Ney n'aurait pas été réellement fusillé, un tir à blanc, et aurait trouvé refuge en Amérique. Mais ce n'est qu'une légende.
C'était la lecture par Fernand Guyot du texte que Jean Tullard a consacré au procès du maréchal Ney, le brave des braves, une triste affaire. Dans l'ouvrage d'encre et de lumière dont nous parlons depuis le début de cette émission, nous allons terminer d'ailleurs sur cette lecture de Jean Tullard. Je vais vous rappeler maintenant les références pour que vous puissiez vous procurer cet ouvrage d'encre et de lumière, itinéraire secret dans la bibliothèque du Sénat. Il est publié par les éditions de La Martinière. Je vais remercier Jean Cluziel de sa présence au studio de Canal Académie et Fernand Guyot pour ses lectures. Merci d'avoir choisi Canal Académie et à bientôt pour une prochaine émission d'Au fil des pages. ¶¶